L'été du roi.
Avec la mort de Nogaret, Philippe le Bel parut avoir pénétré dans un pays où personne ne pouvait le rejoindre. Le printemps réchauffait la terre et les maisons. Paris vivait dans le soleil, mais le roi était comme exilé dans un hiver intérieur. La prophétie du grand maître ne quittait plus guère son esprit. Souvent, il partait pour l'une de ses résidences de campagne, où il suivait de longues chasses, sa seule distraction apparente. Mais il était vite rappelé à Paris par des rapports alarmants. La situation alimentaire dans le royaume était mauvaise. Le coût des vivres augmentait. Les régions prospères n'acceptaient pas de diriger leurs excédents vers les régions pauvres. On disait volontiers « trop de sergents et pas assez de froment ». On refusait de payer les impôts et l'on se révoltait contre les prévôts et les receveurs des finances. À la faveur de cette crise, les ligues de barons en Bourgogne et en Champagne se reconstituaient pour soutenir de vieilles prétentions féodales. Robert d'Artois, mettant à profit le scandale des princesses royales et le mécontentement général, recommençait à fomenter des troubles sur les terres de la comtesse Mao. « Mauvais printemps pour le royaume, dit un jour Philippe le Bel devant Monseigneur de Valois. « Nous sommes dans la 14e année du siècle, mon frère, répondit Valois. Une année que le sort a toujours marquée pour le malheur. » Il rappelait par là une troublante constatation faite à propos des années 14 au cours des âges. 714, invasion des musulmans d'Espagne. 814, mort de Charlemagne et déchirement de son empire. 914, invasion des Hongrois accompagnée de la grande famine. 1114, perte de la Bretagne. 1214, la coalition d'Othon IV, vaincue de justesse à Bouvines. Une victoire au bord de la catastrophe. Seule l'année 1014 manquait à l'appel des drames. Philippe le Bel regarda son frère comme s'il ne le voyait pas. Il laissa tomber la main sur le cou du lévrier lombard qu'il caressa à rebrousse-poil. Or, le malheur, cette fois, mon frère, est le produit de votre mauvais entourage, reprit Charles de Valois. Marigny ne connaît plus de mesure, il use de la confiance que vous lui faites pour vous tromper et vous engager toujours plus avant dans la voie qui le sert, mais qui nous perd. Si vous aviez écouté mon conseil dans la question de Flandre. Philippe le Bel haussa les épaules d'un mouvement qui voulait dire « À cela, je ne puis rien ». Les difficultés avec la Flandre resurgissaient périodiquement. Bruges, la riche, irréductible, encourageait les soulèvements communaux. Le comté de Flandre, de statut mal défini, refusait d'appliquer la loi générale. De traités en dérobade, de négociations en révolte, cette affaire flamande était une plaie inguérissable à l'épaule du royaume. Que restait-il de la victoire de Mons-en-Pévèle ? Une fois encore, il allait falloir employer la force. Mais la levée d'une armée exigeait des fonds. Et si l'on repartait en campagne, le compte du trésor dépasserait sans doute celui de 1299, demeuré dans les mémoires comme le plus élevé que le royaume ait connu. 1 642 649 livres de dépenses, accusant un déficit de près de 70 000 livres. Or, depuis quelques années, les recettes ordinaires s'équilibraient autour de 500 000 livres. Où trouver la différence ? Marigny, contre l'avis de Charles de Valois, fit alors convoquer une assemblée populaire pour le 1er août 1314 à Paris. Il avait déjà eu recours à de pareilles consultations, mais surtout à l'occasion des conflits avec la papauté. C'était en aidant le pouvoir royal à se dégager de l'obédience au Saint-Siège que la bourgeoisie avait conquis son droit de parole. Maintenant, on demandait son approbation en matière de finances. Marigny prépara cette réunion avec le plus grand soin, envoyant dans les villes messagers et secrétaires, multipliant entrevues, démarches, promesses. L'assemblée se tint dans la galerie Mercière dont les boutiques ce jour-là furent fermées. Une grande estrade avait été dressée où s'installèrent le roi, les membres de son conseil, ainsi que les pairs et les principaux barons. Marigny prit la parole, debout, non loin de son effigie de marbre, et sa voix semblait plus assurée encore qu'à l'accoutumée, plus certaine d'exprimer la vérité du royaume. Il était sobrement vêtu. Il avait de l'orateur la prestance et le geste. Son discours, dans la forme, s'adressait au roi, mais il le prononçait tourné vers la foule, qui de ce fait se sentait un peu souveraine. Dans l'immense nef à deux voûtes, plusieurs centaines d'hommes venus de toute la France écoutaient.